Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. À quoi vont ressembler nos habitations de demain ? Une chose est sûre, elles devront être écologiques et économiques. Il faut dire qu'aujourd'hui, le bâtiment, c'est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. C'est 27% de nos émissions de CO2, presque la moitié de la consommation d'énergie du pays. Mais ça va changer. L'objectif, c'est d'atteindre la neutralité carbone dans moins de 30 ans. Pour ça, il va falloir opter pour des bâtiments qui ne consomment pas ou presque pas d'énergie, des bâtiments qui utilisent des matériaux durables et qui laissent une place à la nature. Eh bien, figurez-vous que ce bâtiment du futur existe déjà et il est même déjà habité.
Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine Demory.
Monsieur Jacques-Félix Faure, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes architecte et notamment l'architecte du Hautbois à Grenoble, un immeuble qui est totalement unique en France. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu à quoi ressemble cet immeuble ?
Alors c'est un immeuble qui accueille 56 familles, donc c'est 56 logements. Et c'est un immeuble qui fait donc 8 étages. Et c'est la particularité de cet immeuble, c'est qu'effectivement il est construit entièrement en bois. Et en plus, c'est un bâtiment qui est passif, c'est-à-dire qui ne consomme pratiquement pas d'énergie.
Il n'y a pas de radiateur du tout, du coup, dans l'immeuble ?
Pas de radiateur, pas de plancher chauffant, pas d'émetteur de chaleur, effectivement.
Ni chauffage, ni climatisation, du coup ?
En fait, on utilise le système de ventilation, c'est une ventilation qu'on appelle double flux, pour pouvoir souffler de l'air qui est réchauffé ou éventuellement de l'air qui est refroidi. Donc la ventilation sert effectivement à tempérer chacun des logements, avec très très peu d'énergie. C'est-à-dire que on va dire qu'on a besoin d'un radiateur de 700 watts, c'est-à-dire l'équivalent de ce que vous avez dans votre voiture, c'est-à-dire un tout petit radiateur par logement, pour pouvoir tempérer, s'il le fallait, c'est très rare dans l'année, mais s'il le fallait, pour pouvoir tempérer l'air des appartements.
Et je crois que c'était très efficace, puisque cet été, j'ai vu que les températures n'avaient pas dépassé 29 degrés pendant les canicules.
Ouais, exactement. On a un système qui est, c'est quand même des logements sociaux, donc c'est du collectif. Donc on arrive toujours par le système de ventilation, on arrive à rafraîchir les logements. Et donc effectivement, cet été, alors qu'il y avait un gros problème de canicule à Grenoble, on est arrivé à jamais dépasser la température de 29 degrés.
Et puis l'autre avantage, ce sont des charges également qui sont très faibles pour les locataires.
Oui, ça c'est extrêmement important, puisqu'on a des locataires qui très souvent ont très peu de sous. Et donc les charges, c'est un point crucial pour eux. Et donc c'est pas simplement le fait de diminuer la consommation d'énergie, c'est en fin de compte, c'est diminuer les charges, les loyers, et donc du coup faire en sorte que les gens puissent, notamment les gens nous disent, on a un peu plus d'argent à la fin du mois et on mange mieux. Ça veut dire que faire un bâtiment qui a moins de déperdition, ça permet aux gens de mieux manger. C'est très important de dire ça.
Oui, parce que c'est là encore significatif, je crois que j'ai vu que c'était 30 euros à peu près par mois.
Exactement. Ouais.
Comptez plutôt 120 euros dans les bâtiments à côté.
Exactement.
Alors vous le disiez, la particularité notamment de cet immeuble, c'est d'être en bois. Mais alors c'est quoi du coup l'avantage du bois par rapport au béton qu'on utilise normalement ?
Il se trouve qu'au moment où on a construit notre bâtiment, à côté il y avait aussi plusieurs immeubles qui sont construits, des immeubles qu'on va dire classiques. Eh bien on voit tout de suite le premier avantage. Au niveau des fondations, les immeubles en béton étaient obligés de faire des fondations très profondes. Alors je vais passer dans les détails techniques, mais en gros, on devait renforcer le sol, faire des fondations qui faisaient donc un renforcement de sol sur 11 mètres de profondeur, 3,50 mètres de fondation, alors que notre bâtiment avait des fondations d'1,80 m. Et à Grenoble, il se trouve qu'on est sur une nappe phréatique. Donc notre bâtiment en bois ne traverse pas la nappe phréatique, alors que les bâtiments en béton, non seulement la traversent, mais traversent de façon beaucoup plus profonde. Donc là, déjà, on a un changement très très significatif sur l'impact sur le sol. Alors, impact en termes de biodiversité, de modification des sous-sols, mais aussi, on met beaucoup, beaucoup moins de béton dans le sol. Alors, il faut expliquer pourquoi ça. C'est parce qu'à Grenoble, on est dans une zone qui est une des zones les plus fortes en termes de sismicité, c'est-à-dire tremblement de terre. On peut avoir des tremblements de terre très forts à Grenoble, comme à Nice ou à Colmar. Et donc, du coup, on doit faire des fondations qui doivent répondre à ces problématiques de tremblement de terre. Et il se trouve que le bois est extraordinaire pour ça. Ça veut dire que le bois permet de diffuser l'énergie d'un tremblement de terre. Et donc, les fondations n'ont pas besoin de reprendre cette énergie-là, puisque le bois le diffuse. Et donc, contrairement à un bâtiment en béton qui est très très rigide et qui donc renvoie toute l'énergie dans les fondations, là le bois arrive à diffuser sur la toute la hauteur de l'immeuble cette énergie là. Et donc du coup, on a un impact sur le sous-sol qui est vraiment négligeable, hein, 1m80, c'est presque comme une maison individuelle, j'allais dire, en exagérant un peu. Mais voilà, première chose très très importante, des choses qu'on voit pas, on ne touche pas au sous-sol ou d'une façon très très petite. Donc ça c'est important. Puis l'autre chose, le bois il est fait comment? C'est une photosynthèse qui à un moment donné permet de stocker du carbone, hein. Le bois c'est du carbone, et donc nous là on stocke 2200 tonnes de carbone, c'est énorme, hein. Et au lieu de les rejeter, j'allais dire, dans l'atmosphère, hein, on les stocke, et donc non seulement on prend un matériau qui est renouvelable, c'est-à-dire que la forêt peut repousser, mais on stocke du carbone, donc c'est quelque chose de très important.
Et au niveau de l'isolation, ça donne quoi le bois?
Alors l'isolation, c'est quelque chose. Alors déjà le fait d'utiliser du bois, on n'a pas de pont thermique, on est déjà un petit peu isolant. Mais après on fait une enveloppe, une très très bonne enveloppe, hein. Voilà, on fait une espèce de doudoune autour de notre bâtiment qui nous permet de faire en sorte qu'on ait pratiquement pas besoin d'énergie, notamment en hiver, pour chauffer les différents logements. On a une enveloppe qui est préfabriquée, donc qui est d'une extrême qualité. Quand je dis préfabriquée, ça veut dire que c'est fait en atelier. L'ensemble de l'enveloppe est fait en atelier avec beaucoup de soin. Et donc, on a un bâtiment qui est très bien construit. C'est un point important qu'on développe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle l'économie globale, c'est écologique ça. C'est en fait, on fait en sorte que notre bâtiment ait une grande pérennité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première écologie, c'est de pas avoir à refaire tous les 15 ans, à mettre des échafaudages et à nettoyer, voire à ravaler les façades. Notre bâtiment, il est conçu pour ne pas avoir d'entretien pendant 50 ans. C'est la première écologie, ça. C'est-à-dire ne pas avoir une obsolescence programmée sur une construction, mais avoir une pérennité. On parle de patine dans le temps. Moi, j'aimerais que dans 50 ans, vous veniez voir ce bâtiment-là et vous dites « Ah, il a bien vieilli ». Ça, c'est important.
Oui, donc c'est un bâtiment donc qui va bien vieillir, qui va pas demander beaucoup d'entretien. Et alors, vous parliez qu'il est préfabriqué. Au final, ça fait comme un jeu de Lego géant pour l'assembler ensuite sur place.
C'est une très belle image. Effectivement, pour un architecte, c'est très sympa, hein, parce que vous avez des camions qui arrivent avec des grands panneaux de bois. Et c'est vraiment, dans la journée, vous voyez un étage monter. Donc, c'est comme si c'était effectivement un jeu de Lego, une grande maquette. Et c'est très rapide. Pourquoi c'est très rapide? Parce que on préfabrique. Donc, au lieu d'attendre que le mur en béton sèche, nous, pendant que on monte les panneaux bois, on construit en atelier la phase suivante, qui est l'enveloppe, etc. Donc, on gagne pas mal de temps, hein. C'est-à-dire qu'un bâtiment, à bâtiment équivalent, normalement, on met 2 ans. Et là, nous, on passe à 18 mois, quoi, hein. Donc, c'est quand même assez significatif, hein. On gagne 6 mois par rapport à un bâtiment classique.
Et alors, vous parliez tout à l'heure des tremblements de terre. Ce qui peut faire un petit peu peur avec le bois, c'est aussi le risque d'incendie. Il y a un risque particulier?
Alors, effectivement, on a tous peur. On se dit, le bois, on met une allumette, ça va brûler, quoi. C'est une fausse information. Dans le sens que, d'abord, nous, ce qui était très important, c'est que ce bâtiment-là, c'est pas que ça soit un exploit non reproductible. On veut que ça soit un bâtiment totalement normal. C'est-à-dire que des hauts bois, on voudrait qu'on ait plein qui puissent se refaire derrière ce bâtiment-là. Donc, on a vraiment passé toutes les étapes que demande un bâtiment pour que ça soit un bâtiment classifié normal. C'est-à-dire que on n'a pas de surassurance. Les pompiers le considèrent comme un bâtiment totalement classique. Et pour ça, on a, avec les pompiers, avec le CSTB, c'est un organisme de contrôle, etc. On a fait en sorte que, effectivement, on rentre dans les normes des bâtiments. On répond aux règles de l'art de façon totalement traditionnel. Pour ça, c'est pas été si simple que ça, hein. On a dû prouver que ça fonctionnait. Donc, notamment, par exemple, pour ce bâtiment, on a monté une maquette à l'échelle 1 de 2,5 étages qu'on a fait brûler et on a regardé comment ça se passait. Et au bout de cet essai-là, les pompiers ont dit « Ok, d'accord, ça marche, on est rassuré, ça fonctionne, tout ce qu'on demandait, des histoires de stabilité au feu, etc. » Ça fonctionne. Donc, vous pouvez le construire et nous, on est rassurés, vous pouvez y aller. Voilà, le bâtiment est aussi, j'allais dire, répond aux mêmes contraintes qu'un bâtiment en béton. On est classique, tout simplement. Voilà. Alors, ça demande, hein, ça demande en termes de conception des choses particulières. Mais une fois que vous faites ces choses-là, ce bâtiment-là est totalement, préserve totalement les gens qui y habitent de tout problème d'incendie.
Et c'est pas un petit peu paradoxal de couper du bois alors que justement on nous demande de préserver les forêts puisque les arbres absorbent la pollution?
C'est une très très bonne question là que vous posez là. En fait, c'est la question de la ressource. Hein. Comment on fait en sorte qu'à un moment donné, on puisse continuer à construire en bois sans à un moment donné appauvrir la ressource qui sont nos forêts? Et ça, c'est une question vraiment importante dans le sens que aujourd'hui, la forêt grandit plus chaque année que ce qu'on lui prend, hein. C'est important de dire ça. C'est-à-dire que pour le moment, la forêt en France ne diminue pas, elle augmente. Ça veut dire que c'est un peu embêtant parce que elle augmente au profit de prairies et en termes de biodiversité, il faudrait plus s'en couper de la forêt. Hein, il faut rétablir cette vérité-là. Mais une fois que j'ai dit ça, votre question, elle touche à un problème de, on va dire, comment on exploite cette ressource. Et en France, c'est pas si simple, notamment autour de Grenoble, parce que on est dans des montagnes. Et à un moment donné, couper du bois en montagne, c'est pas si simple que ça. Il y a des pentes et des choses comme ça. Donc, il y a une filière qui s'appelle la filière bois, qui reste encore à, consolider et à mettre en place pour que, effectivement, on pérennise cette ressource. Et c'est pas encore tout à fait calé, tout ça. Pourquoi? Parce que la forêt française, c'est une forêt qui n'est pas... Il y a énormément de propriétaires, donc il faut que tous les propriétaires soient d'accord. Et donc, cette ressource-là, et la façon dont on l'exploite, reste encore quelque chose à construire. Ça va prendre encore quelques années pour être aussi bon que nos amis suisses, autrichiens, allemands, etc., qui, eux, ont fait beaucoup, beaucoup de progrès de ce côté-là, parce qu'ils ont une quinzaine ou une vingtaine d'années d'avance par rapport à nous. Et donc, on a, et c'est une très bonne question, encore un très gros travail à faire pour que on soit serein et que on replante comme il faut, qu'on laisse des forêts pour tout ce qui est de l'ordre du tourisme, etc., qu'on sache travailler avec du feuillu et pas qu'avec du résineux, qu'on plante des arbres qui seront les arbres de demain par rapport au changement climatique. Donc il y a énormément de questions sur lesquelles on doit encore répondre. Mais la chose qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une ressource renouvelable. Il faut simplement du soleil et ça fonctionne. Simplement, il y a encore un gros travail pour faire en sorte que cette ressource soit bien utilisée.
Bien, parfait, c'était super. Merci beaucoup, monsieur Félix.
Merci, bonne journée à vous. Au revoir.
Alors on espère évidemment voir de plus en plus d'immeubles comme celui du Hautbois sortir de terre un petit peu partout en France. En attendant, certains se sont déjà lancés. Il existe quelques habitations autonomes donc qui produisent même plus d'électricité qu'elles n'en consomment. Et ça reste assez marginal. Alors en dehors de ces maisons, de ces bâtiments incroyables, il va aussi et surtout falloir faire un gros travail de rénovation sur les habitations existantes. Oui, on ne va quand même pas tout raser pour mettre à la place des immeubles ou des maisons autonomes dernier cri. Pour ces rénovations, il existe des aides de l'État. Plus de 6 milliards d'euros ont été débloqués par le gouvernement. Malgré tout, on reste très loin des objectifs. Sur les 30 millions de résidences principales en France, seulement 1 500 000 sont peu énergivores, c'est à peine 5%. Alors, il faut dire que c'est souvent le parcours du combattant pour accéder aux aides. Et alors même quand on y arrive, il reste un très gros investissement personnel que peu de gens peuvent se permettre. Pourtant, les avantages sont énormes. Avec des logements bien isolés, les économies d'énergie sont colossales. Ça nous permettra de diminuer très nettement nos émissions de CO2. Et en même temps, on améliorera notre confort et notre pouvoir d'achat avec des factures en baisse. Tout le monde y gagne. Vous venez d'écouter Objectif Terre. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. À bientôt.